Joris Lacoste, merci d'être avec nous ici à la MC 93 à Bobigny, où vous présentez, dans le cadre du Festival d'automne, la pièce que vous avez créée cet été à Avignon, Nexus de l'Adoration. Il s'agit d'une cérémonie, d'une célébration, une messe, disons-le, qui souhaite chanter les choses du monde, toutes les choses du monde, celles qu'on apprécie comme celles qu'on abhorre, chant liturgique qui, compte tenu de la tâche, pourra se poursuivre jusqu'à la fin des temps, au-delà même du spectacle.
Donc il s'agit plutôt d'une sorte de concert, au point qu'à un moment du spectacle, on aimerait le chanter avec vous. Comme dans une comédie musicale, comme dans une messe où, sur les prix de Dieu, on trouve les textes des chants de la cérémonie. Alors, deux questions en une. Allez-vous produire un disque de spectacle, de ce spectacle ? Et la pièce a été créée au Festival d'Avignon l'été dernier et est depuis en tournée. Observez-vous de notables différences de réception entre un public de festivaliers et le public tout venant ?
Bonjour.
Oui.
Pour la première question, oui, on travaille sur un album de chansons tirées du spectacle. Ce n'est pas un enregistrement du live du spectacle, c'est vraiment un album studio où c'est moi qui vais chanter la plupart des voix. Parce qu'en fait, pour préparer le spectacle, j'avais fait plein de maquettes musicales où j'avais composé la musique et je m'étais enregistré pour donner une idée aux interprètes. Et quand on s'est dit que ça serait bien, depuis beaucoup de gens, en fait, après Avignon, nous ont demandé si on pouvait trouver la musique quelque part, etc. Donc avec la Muse en circuit, qui est partenaire du spectacle, qui est un centre de création musicale, on s'est dit que ça serait bien d'essayer d'en faire quelque chose. Et on est reparti de ces maquettes. Il y en a déjà 4 qui sont disponibles sur YouTube. Et l'album définitif, on a prévu de le sortir le 31 mars.
Oh, super. Et la réception ?
Les différences de réception, je sais pas. Disons qu'à Avignon, c'est toujours un peu particulier parce que il y a beaucoup de professionnels, il y a beaucoup de gens qui voient plein de spectacles dans la journée. Ils ont donc une attention qui n'est pas exactement, peut-être pas aussi disponible que dans d'autres. Moi, je dirais que la réception, elle est un peu différente partout, en fait. C'est pas tellement les festivals et les autres lieux. Avant de venir ici, on était à Strasbourg, au Maillon, pour le Festival Musica. C'est aussi un festival, mais c'est un festival plus de musique. Et donc, c'est un public mélangé à la fois de gens qui viennent voir, qui viennent parce qu'ils ont l'habitude d'aller au Maillon, qui est un théâtre assez généraliste, et des spectateurs disons plus mélomanes, plus spécialisés en musique. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est ces mélanges de public. C'est un spectacle qui joue beaucoup sur l'hétérogénéité, le sujet même est l'hétérogénéité des choses du monde, l'hétérogénéité de nos expériences du monde. Et donc, c'est, je pense, un spectacle qui fonctionne quand on a un public qui est lui-même hétérogène. Et ça s'entend, en fait, dans la salle, puisqu'on voit que selon les références qui sont convoquées à tel ou tel moment, ce n'est pas les mêmes personnes qui réagissent sur des références qui sont celles, je ne sais pas, c'est des références de jeux vidéo, par exemple. Il y en a certaines qui les comprennent, d'autres pas. Et après, on va avoir une référence à la musique classique ou à la poésie latine. Et là, c'est tout à fait d'autres endroits du public qui rient ou qui se manifestent. Et donc, je dirais, ouais, c'est plutôt ce genre de... Donc, plus le public est mélangé, je pense, l'expérience est intéressante pour nous.
Et forte, quoi. C'est une sacrée entreprise, hein, si je puis dire. Toutes les choses du monde, chanter la gloire du tout venant. Il semble qu'il y ait dans votre proposition plusieurs couches d'influence, vous en avez parlé là, du doom scrolling que nous pratiquons tous sur les réseaux sociaux et qui fait se succéder une vidéo de chat à un manifestant contre des méga-bassines, à la procession de l'étang chez Plotin en passant par Yankelevitch et son je ne sais quoi et presque rien. Et moi, j'ai envie de vous demander, mais de quel côté vous balancez, pop culture ou érudition ?
Ah ben justement, l'idée, c'est de ne pas prendre parti. Nous, on essaie de se situer à un endroit qui serait un endroit, je dirais pas au-dessus, mais plutôt en deçà de toutes les choses, une espèce de niveau moins 1, de plan qu'on essaie de construire et sur lequel, en fait, on n'a plus... Les questions, disons, de hiérarchisation ou les questions, disons, de valeurs, de choses qui sont des valeurs, des questions qui sont toujours extrêmement relative, subjective. Chacun apporte des, on donne des degrés d'importance, de valeur aux choses selon, selon nos propres valeurs et selon nos propres expériences, nos cultures, etc. Et nous, on essaie de créer un plan où toutes ces questions de valeurs sont suspendues, comme si un peu, si on essayait d'imaginer une fiction, disons, de la, d'un public total. On essaie de voir comment cette, disons, n'importe quelle chose pourrait être équivalente, enfin, chaque chose pourrait être équivalente.
Oui.
C'est pas, disons, que la question, c'est que les choses, c'est ce que je trouve dans le spectacle, les choses sont libres et égales en droit, toutes les choses sont libres et égales en droit. Une chose fragile égale une chose forte, une chose belle égale une chose, etc. Et l'idée, c'est pas qu'elles le sont pour chacun, c'est l'idée que c'est que. C'est une manière de le, disons, de le présupposer de façon ensuite à pouvoir les appréhender et les regarder différemment sans a priori et d'essayer de comprendre et de construire surtout de nouveaux types de rapports.
Et donc, bah justement, certains peuvent penser que votre spectacle, en juxtaposant les choses du monde, ne prend pas parti et convie au relativisme. Pourtant, il est assez clair que vous organisez, vous faites état d'un point de vue, une identité qu'on dirait queer au plateau, la recette des cocktails Molotov, la kétamine, la White Widow, l'évocation par deux fois de Spinoza, et sans jamais les nommer du rhizome de Deleuze ou du panopticon de Foucault. On est clairement chez les wokistes et ça n'est pas pour nous déplaire. Et donc, vous faites s'entrechoquer des choses que l'on désire avec des choses que l'on préférerait éviter, semblant nous dire que tout est lié. Est-ce votre manière de produire une pièce intersectionnelle ?
Ben disons qu'il y a une certaine part de mauvaise foi dans cette entreprise. Et il faut distinguer le plan de la fiction. Donc on postule une nouvelle religion qui se donnerait pour but de célébrer toutes les choses du monde sans aucune forme de préférence ou de hiérarchie. Ça, c'est la fiction. Et après, est-ce que nous, en tant que dramaturges, on décide de mettre en avant dans ce spectacle-là et quelles choses on prend et quelles choses on, comment les choses se succèdent. Et ça, c'est évidemment... Disons que dans la fiction, tout se succède au hasard. Et c'est vraiment on whipine, quoi. C'est comme... C'est-à-dire que tout est... Il y a une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre. En réalité, c'est une écriture. Et sur le plan de l'écriture, évidemment, il y a des rapports qu'on construit, il y a des connexions, il y a des effets de, on prépare des effets de sens, de contraste, et on fait apparaître des formes aussi d'ironie. Mais je dirais ça, c'est vraiment le, voilà, c'est là où c'est important de garder une sorte de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur, complètement sur le plan, sur le discours de « tout est égal ». Et en réalité, dans ce qu'on entend, on voit bien que on fait des choix.
Oui.
Mais nous qui faisons des choix, c'est pas le même nous, c'est le nous dramaturge, c'est pas le nous,
De la fiction.
De la fiction,
du personnage.
Du personnage dans la religion qu'on essaie de figurer.
C'est pas la première fois que vous avez ce désir d'exhaustivité, hein, chanter toutes les choses. On le retrouve déjà dans Encyclopédie de la parole, où vous tentez de récolter et d'exposer tous les types de prises de parole possibles, ce qui prenait souvent la forme d'une chorale, d'une pièce musicale. Et pour ce spectacle, Nexus de l'Adoration, vous avez sur votre site proposé une nouvelle entrée dans laquelle le ranger, néphérisme, c'est-à-dire rite et célébration. Et vous semblez cette fois vous ranger du côté d'un théâtre rituel, peut-être celui d'Artaud. Mais lorsqu'on décide de dire les choses comme cela, sous forme de suite, est-ce qu'il faut se plier aux catégorisations ? Autrement dit, est-ce que vraiment vous avez hésité entre théâtre et concert ?
Disons que j'avais très envie de faire de la musique, de faire une pièce musicale, et il se trouve que je fais du théâtre depuis longtemps. Et que donc mon désir de musique a pris forme dans ma pratique, qui est une pratique théâtrale. Et comme je n'avais jamais fait de musique avant, je me suis mis à composer de la musique aussi avec des outils de pensée, des outils dramaturgiques, qui sont ceux que j'utilise pour faire les spectacles que je fais. Donc, le projet à l'origine était aussi faire une comédie musicale. Parce que je me disais, dans cette idée de religion, il y a une dimension de communion dans, dans toute cérémonie religieuse, de participation du public, qu'il faut réussir à mettre en jeu. Et dans les configurations théâtrales dans lesquelles on joue, ou en tout cas auxquelles on est assigné, à savoir des grandes salles avec un plateau frontal, etc., c'est, bon, c'est difficile de trouver des... Puis surtout parce qu'on a un public qui, dans la fiction peut-être, est un public de fidèles, mais qui, dans la réalité, sont des gens qui viennent voir un spectacle, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils vont voir et qui ne peuvent pas reprendre et chanter les chansons comme à la messe ou dans d'autres cérémonies. Et donc, je me suis dit... La forme de la comédie musicale, c'est la forme la plus proche de quelque chose qui serait de l'ordre d'une... où le public est engagé à participer parce qu'il y a des choses qui sont musicales, qui sont rythmiques, où au moins le corps est engagé de façon plus directe et moins, disons, moins distante ou moins critique. Donc, les moments de chanson et les moments de chorégraphie sont des moments où... comme dans un concert, on a un rapport un peu naïf, un peu direct, disons, à ce qui se passe sur scène. Et c'est un moment là, qui, pour moi, est la chose qui se rapproche le plus de quelque chose de l'ordre de la communion.
On l'a dit, votre spectacle, au-delà de produire une litanie de tout ce qui existe et même de ce qui n'existe pas, est en lui-même une suite de choses, un patchwork de formes spectaculaires. Cours de fitness aérobique, sermon d'une intelligence artificielle, coaching de développement personnel, concert électro de Laurie Anderson, stand-up, chorégraphie de Pina Bausch ou de Anne-Thérèse Kersmaker, une liste à la Pérec qui semble en fait appliquer tous les principes de la méthode W qui permet de penser le spectacle vivant et la performance, notamment. Rien ne semble ici laissé au hasard. Au moment où le spectacle peut apparaître distant, presque froid, dans l'énumération, arrive l'évocation du décès de la mère d'une des interprètes qui, tout un coup, apporte l'intime nécessaire à votre proposition. Et tout de suite s'enchaîne une petite farce de Thomas Gonzalez, comme pour déjouer le pathos. Comment avez-vous travaillé avec vos interprètes? Comment travaillez-vous avec eux?
C'est la question la plus difficile. Déjà, je travaille différemment avec chacun d'entre eux. Il n'y a pas une méthode générale. C'est souvent des rapports de complicité, des relations qui se... Mais disons, dans le temps des répétitions, il y a vraiment eu deux méthodes assez différentes. Toute une partie du spectacle, la première heure à peu près, que j'ai vraiment écrite entièrement. Et j'ai même fait une maquette sonore, comme je disais tout à l'heure, où j'ai vraiment fait toutes les voix, etc. Donc c'était vraiment une partition très très précise. Que je leur ai demandé d'interpréter, et ensuite on a trouvé la manière de la mettre en scène et de la jouer, etc. Mais c'était vraiment... Et ensuite, dans la deuxième partie, ou la partie centrale, c'est la partie où ils commencent à parler à la première personne, ce qui n'est pas du tout le cas au début du spectacle. Ils commencent à dire « moi j'aime ceci, moi j'adore ça », etc. Ils développent des petites narrations, ou en tout cas des petites anecdotes, et ça c'est des choses qu'ils ont eux développées en improvisation, et qu'ensuite on a réécrit ensemble et qu'on a travaillé ensemble. Il y a toute cette partie-là qui vient vraiment des interprètes, et notamment l'histoire de la mort de Tama, par exemple, que vous évoquez. Voilà, donc c'est... Disons que c'est très... Et après, quand je dis que le travail est différent avec chacun, c'est qu'ils ont aussi... Ils ont aussi des peut-être pas des fonctions, mais en tout cas des places dans le spectacle qui sont assez... différentes. Et puis ils ont aussi des interprètes qui ont des parcours très différents, qui viennent de traditions théâtrales ou chorégraphie, des gens qui viennent du théâtre, de la danse, d'autres plus de la performance, de la musique, et donc qui ne travaillent pas de la même façon. Donc avec chacun, j'ai essayé de trouver la bonne manière, de la bonne justesse. Par rapport à l'ensemble et au rapport collectif, pour qu'on voit à la fois des singularités très fortes qui s'affirment quand elles ont besoin de s'affirmer, et qu'en même temps on ne perde jamais le lien, le collectif et l'impression d'ensemble et de communauté. En fait, c'est vraiment aussi cette question de l'hétérogénéité qui était notre point de départ, notre point central.
Comment faire communauté
C'est l'hétérogénéité des choses qu'on évoque, mais c'est aussi l'hétérogénéité des interprètes sur scène, c'est-à-dire qu'ils aient, qu'on sente qu'ils ont tous des histoires, des parcours, et puis ils ont aussi des générations différentes, donc des cultures différentes, des références différentes, et qui fait écho aussi à l'hétérogénéité des gens du public.
Un chargeur de téléphone.
Dans 1984, George Orwell évoque dans ce monde dystopique et totalitaire la novlangue, une langue qui supprimerait des pans entiers du vocabulaire pour renforcer le pouvoir en place. Le mal n'est plus le mal, hein, il devient le un bon, et on ne peut plus se rebeller contre lui puisqu'on ne peut plus le nommer. Est-ce que justement, vous ne nous rendez pas un peu de pouvoir, vous, en nommant les choses, et est-ce que vous n'êtes pas un peu surpris par la réaction de certains spectateurs vis-à-vis de cet empowerment? En effet, la pratique de la disjonction provoque des réactions dans le public, notamment des rires.
Il y a un mot important dans ce que vous venez de dire, c'est le mot de disjonction,
Oui.
qui en effet est, disons, la stratégie première
Ben
de
oui.
toute la pièce. C'est-à-dire le fait de choisir des choses qui sont toutes des choses très banales et très familières, mais les organiser de façon à ce que, il n'y ait aucun rapport direct de l'un à l'autre. Une odeur de peinture fraîche. Et après, ça va être un super pixou géant, un sosie de Léon Marchand, une nouvelle période glaciaire, un chaton qui joue du piano. Et donc, on a organisé, donc on a fait des listes d'abord de milliers comme ça de choses. Enfin, moi, j'ai commencé il y a plus de 2, 3 ans à faire des listes, en essayant de nommer comme ça toutes les choses du monde, en essayant de rien oublier. Donc, je passais mon temps à me dire, ah mince, j'ai oublié, je parle pas du tout, par exemple, des ateliers de gestion de conflits. Et donc, ou je parle pas de. Voilà. Et donc, j'essayais comme ça de faire des listes, donc des choses concrètes, des activités, des concepts. À un moment, je dis, ah, mais il n'y a rien d'historique. Et donc, je dis, ah mince, il faut que je rajoute, je sais pas, la prise de Constantinople. Parce qu'on dit les choses du monde, c'est vraiment tout ce qu'on peut appeler une chose, quoi. Quand je dis une chose, c'est vraiment au sens le plus large possible. Ça comprend les êtres vivants, les êtres humains, les événements. Donc j'ai commencé par faire cette liste, et ensuite la question, et j'ai fait participer les interprètes aussi, évidemment, pour pouvoir l'enrichir de leurs différents. Voilà, chacun a des toutes sortes de. Enfin, moi, j'ai évidemment beaucoup d'angles morts, de choses auxquelles je peux pas penser tout seul. Donc, c'était important de la collectiviser. Les interprètes, et puis aussi pas mal d'amis qui ont participé à. C'est de manière à avoir le plus de références possible dans le plus de monde, de faire rentrer le plus de monde possible. Et après, le grand travail, c'était l'organisation, c'est-à-dire la composition de ces éléments par à la fois ce principe de disjonction, donc faire en sorte qu'il y ait une chose, que les choses n'aient pas de rapport direct, et en même temps que ça laisse quand même. Donc ça produit des effets comiques, évidemment. Enfin, ça peut en produire parce que parfois c'est très inattendu. Parce qu'on a, je ne sais pas, une frappe nucléaire tactique, et puis juste après, on a l'eczéma de Michel Houellebecq. Et ces deux choses à la suite, totalement improbables. C'est à la fois une opération poétique élémentaire, et en même temps, c'est aussi une stratégie comique très facile. Mais je trouve que ça fonctionne quand l'endroit de relation. C'est-à-dire que moi, ce que j'appelle une relation sans rapport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport direct, mais dans l'ensemble, il faut qu'il y ait la
Relation.
possibilité, la vague possibilité pour le spectateur ou la spectatrice de se construire une forme de narration. C'est-à-dire que si c'est vraiment trop éloigné, parfois ça sent, c'est trop forcé, et là on bloque, on sent trop que c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, il faut trouver un endroit où les choses n'ont rien à voir et en même temps, elles pourraient peut-être, si on cherchait, on sent qu'il y a peut-être un rapport possible. On n'a pas le temps, évidemment, de le former, mais il y a quand même la possibilité d'un rapport. Donc, ça, c'est vraiment la stratégie, disons, centrale, disons, pour toute la composition de la pièce à différentes échelles, à l'échelle de ces listes-là, mais aussi à l'échelle des scènes entre elles. Et voilà. Après, sur la, disons, la manière de renommer le monde, je pense que c'est vraiment cette pratique de, élémentaire de nommer les choses de façon enfin, vraiment nominale, c'est-à-dire sans verbe, sans syntaxe, d'avoir juste, de dire vraiment juste un chromosome Y, ou de dire juste un perroquet qui chante Crazy in Love, et de laisser ces choses-là flotter comme ça dans l'espace, et de manière à se, d'une part à produire des images, parce que la plupart du temps ça produit des images mentales, mais aussi à rappeler, c'est comme une manière de rappeler, ah oui, il y a aussi ça qui existe. Ah oui, il y a aussi ça qui existe. Ah, puis on pourrait penser que là, on est dans quelque chose qui est, je sais pas, qui devient un moment un peu politique, grave. Et puis tout d'un coup, on a quelque chose de très trivial parce qu'on a une référence à, je sais pas, une influenceuse de, voilà, de pouvoir jouer avec des types de références, de rapports du plus, disons, de la culture la plus classique à la culture la plus populaire, en évitant encore une fois les effets de hiérarchie. Et ça, c'est, pardon, et ça, c'est, il y a un monologue vers la fin du spectacle qui est mené par Rita Serrage, qui pour moi est un peu le, ce qu'on a appelé glossolalie, qui est un peu le glossolalie, donc c'est le parler en langue, hein, dans, c'est-à-dire le moment où, dans la tradition évangélique, surtout je crois, l'Esprit Saint parle à travers une personne possédée, souvent dans des langues qui sont des langues qui n'existent pas, des langues inventées. Nous, c'est une forme de discours comme ça où toutes sortes de choses s'enchaînent avec une impression de logique, c'est-à-dire qu'elle recrée des liens entre ces différentes choses, parce que du coup on remet de la syntaxe là, on remet des liens logiques, des et donc et puis après, etc. Mais en fait, il y a, ça reste complètement décousu dans son discours. Et pour moi, ça, c'était vraiment... Et donc, elle passe comme ça de... aussi, elle fait valser comme ça toutes sortes de références. Et à un moment, voilà, elle parle de France Gall. Et puis, juste après, elle parle de... Elle parle de du réalisme spéculatif. Et puis, ensuite, elle fait une référence à Question pour un champion. Enfin, voilà, et c'est ce genre de... Voilà, c'est ce genre de... Comment dire? De rapidité. Qui là, je trouve, à un moment trouve son effet, c'est-à-dire que l'important, c'est d'amener les spectateurs à un endroit où ils sont eux-mêmes traversés par cette multiplicité qui donne, enfin qui ouvre la, qui rappelle en tout cas la multiplicité et la complexité des mondes, des mondes qui composent le monde dans lequel on vit.
Oui, vous avez beaucoup travaillé sur l'hypnose. Vous avez même conçu le projet d'un spectacle mental où l'acteur, la lumière, l'ensemble du dispositif produirait les conditions nécessaires à une expérience hypnotique où chaque spectateur se mettrait à rêver son spectacle. Est-ce qu'ici encore, vous vous servez de cette expérience tant parfois la litanie, la lenteur peut conduire à la léthargie et à la rêverie?
Je dirais ce qui est le plus proche de l'expérience hypnotique, c'est le rapport au langage. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'hypnose, quand je l'ai découverte et quand j'ai appris à la pratiquer, c'est de voir à quel point quelqu'un sous hypnose produit des hallucinations à partir d'énoncés, c'est-à-dire quand on raconte une histoire, ou quand on décrit une situation à quelqu'un qui est dans un état modifié de conscience, la manière dont cette personne va mentalement imaginer la situation, par exemple si je vous dis imaginez maintenant que vous vous promenez dans une forêt et c'est l'hiver, et vous entendez quelques oiseaux, et vous sentez le bruit, vous sentez l'odeur d'une fumée, de quelque chose qui brûle. Bon. Vous allez sous hypnose physiquement ressentir ces sensations. Et donc ça produit des rêves, moi ce que j'appelle des rêves préparés ou des rêves guidés, qui sont extrêmement vivaces. Et donc il y a un rapport sous hypnose, il y a un rapport exacerbé. Disons, c'est comme si le langage trouvait une effectivité
Performative.
performative extrême. Et ça, c'est ça qui m'avait vraiment intéressé quand j'avais pratiqué l'hypnose. C'était tout d'un coup de me rendre compte que il y avait le pouvoir poétique du langage était poussé à son degré d'effet de manière. Et dans Nexus de l'adoration, on ne travaille pas avec cette stratégie. On n'essaie pas du tout de mettre les gens en hypnose comme j'ai pu le faire dans ce spectacle qui s'appelait Le vrai spectacle, où là on proposait vraiment aux gens d'entrer en hypnose pour vivre et imaginer un spectacle mental. Mais néanmoins, dans la succession comme ça d'images où on laisse le temps aux gens, enfin, on propose un énoncé, il y a un rapport à l'imagination. Moi j'ai toujours fait un spectacle qui est quand même plus sonore. Et plus verbal ou plus que jamais fait j'ai jamais beaucoup travaillé sur les images dans mes spectacles, jamais utilisé la vidéo. J'ai toujours des décors qui sont assez simples. Bon, là, il se trouve qu'il y a des lumières particulièrement travaillées et complexes, mais c'est j'ai toujours fait plus confiance, disons, à l'imagination du spectateur qu'à la, disons, à la production vraiment de visuels et d'images forts sur scène, et de ce point de vue-là. C'est pas très différent aussi avec le travail que j'avais fait avec l'encyclopédie de la parole, où visuellement, en tout cas, la performance était toujours assez minimale. Et c'est par le pouvoir des mots et du langage que les gens pouvaient imaginer des situations et des personnages extrêmement précis. Donc, de ce point de vue-là, je pense que oui, il y a une forme de continuité. Oui.
Votre spectacle est très apaisé, produisant une sorte de méditation guidée qui oscille entre tragique et farce sans jamais forcer la main. Et peut-être est-ce quelque chose que vous avez emprunté à la liturgie catholique. Et on se prend à se demander ce qui, dans votre spectacle, prend la place de l'homélie, ce qui relève de la paix du Christ. Est-ce que vous êtes inspiré de rites existants?
Mais oui, complètement.
Ah.
C'est drôle parce que le discours d'accueil, la deuxième scène, là, qui est performée par Daphné Biganwanak, on l'appelle Homélie, entre nous, dans le texte. Là. Et ce qui,
dite
disons.
Par une espèce de robot IA.
D'IA, non, je dirais pas d'IA, mais de
Okay.
robot, certainement. Enfin, en tout cas, elle passe par plein de voies différentes. Elle commence par une voie un peu, effectivement, robotique. Et après, sa voix se transforme. Elle prend une voix plus professorale, une voix plus en mode Siri, plus une voix d'enfant. Enfin, elle traverse différentes. Et le texte aussi joue avec différents codes, puisque voilà, c'est un jeu vraiment sur une manière de s'adresser. En fait, c'était une manière de s'adresser aux gens en essayant d'utiliser le plus de code de langage possible, de pouvoir s'adresser en parlant, disons, en mode jeune ou urbain, et puis juste après en mode très universitaire, et puis en mode politique, et puis en mode un peu religieux. Et donc c'était une manière de mélanger tous ces modes-là, à la fois dans le texte, et mais pas forcément au même moment, dans les voix que Daphné prend. Donc c'est une manière de multiplier comme ça aussi, de toute façon, avec cette idée que, voilà, de manière aussi, comme pour tout le reste du spectacle, est-ce que chacun puisse à un moment se raccorder à la chose qui lui parle le plus? Parce qu'il y a des expressions ou il y a des manières de parler qui vont parler plus à d'autres, à certains qu'à d'autres. Mais pour répondre à la question sur la liturgie, moi j'ai pas du tout de culture religieuse, pas du tout. J'ai des parents communistes, donc pas du tout, jamais allé à la messe de ma vie. Enfin, j'y suis allé très tard par curiosité, mais vraiment pour étudier, adulte. Mais j'ai pas du tout cette culture-là. Par contre, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, je me suis mis à écouter la messe sur France Culture le dimanche à 10 h.
Les cultes
Ouais.
protestants.
Mais c'est la messe, c'est vraiment la seule qui est retransmise en direct, littéralement. Et en fait, j'étais assez frappé par l'efficacité dramaturgique. Parce que je trouve que y a une manière d'enchaîner les discours, les chants, alors les chants individuels, les chants choraux, avec un rapport au temps aussi. Ça s'enchaîne toujours très bien, il n'y a jamais de pause. Enfin, c'est quelque chose qui est très bien rythmé, je trouve. Alors, ce n'est pas notre seule influence, hein, bien sûr. Il y a d'autres, disons, d'autres rites beaucoup, beaucoup plus païens et beaucoup plus contemporains ou queer ou qui ont pu, qui traversent aussi le spectacle. Mais de ce point de vue-là, en tout cas du point de vue de la dramaturgie et de l'alternance, comme ça, de choses parlées, de choses chantées. Bon, nous, on a aussi des choses dansées, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la messe, non, que je sache. Même si je l'écoutais qu'à la radio, mais je ne pense pas que ça danse beaucoup. De ce point de vue-là, oui, je peux dire que... En tout cas, ça m'a rassuré d'écouter la messe. Mmh. Je me suis dit, ah oui, il y a quelque chose là dans cette... quelque chose qui, moi, me tient, même si je ne suis pas très attentif au contenu, il y a quelque chose qui me tient musicalement, rythmiquement, et donc peut-être je peux tirer profit.
Je laisse la cosse.
Bah, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à bientôt.